Un recul limité. La vérité, c'est que on nous avait tellement annoncé la Bérézina, une catastrophe absolue, que c'est une petite défaite. Et surtout pas un vote sanction, contrairement à ce qu'on nous avait annoncé.
La question qui est posée, elle est simple, c'est que dans un certain nombre de villes, les électrices et les électeurs du Modem, et donc aussi un certain nombre d'élus du Modem, doivent savoir s'ils veulent faire un bout de chemin avec la gauche, et là ils sont bel et bienvenus, si c'est sur le programme de la gauche, puisque c'est elle qui est placée en tête, ou s'ils préfèrent jouer des jeux politiciens, s'ils jouent des jeux politiciens, ben, qu'ils continuent à y jouer. Nous ne voulons pas jouer de jeux politiciens, nous voulons la clarté. Si on vient travailler avec la gauche, on a sa place, on est respecté, et on peut faire des choses ensemble.
Salut à tous, c'est Politique Addict, l'émission qui s'intéresse à la nouvelle génération politique. Et au lendemain du premier tour des municipales, c'est évidemment ce soir à une spéciale municipale que nous vous convions. Poussée de la gauche, résistance de la droite. Après avoir entendu hier soir tous les ténors nationaux, on avait envie de prendre ce soir le contre-pied et de donner la parole aux jeunes candidats qui se sont battus chacun sur leur territoire avec leurs petits points et leurs grandes idées. Plusieurs invités donc ce soir dans ce studio avec nous. Caroline Després, déléguée nationale des jeunes UMP et candidate pour ces municipales à Paris. Et puis par téléphone, nous allons nous rendre en direct dans quatre villes clés de ces municipales pour interroger de jeunes candidats locaux. Politique Addict spéciale élection, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir Caroline Després.
Bonsoir.
Après avoir reçu Kitry Delmas pour le Modem et Bruno Julliard pour le PS, nous vous recevons ce soir en tant que représentante de l'UMP.
Merci.
Je le disais, vous êtes candidate à Paris et déléguée des jeunes UMP, candidate à Paris dans le 16e arrondissement. Voilà. Donc on va bien sûr parler avec vous ce soir des résultats à Paris qui sont, bon, il faut bien le dire, assez mauvais pour votre parti et sa tête de liste Françoise de Panafieux. Mais on va aussi s'intéresser tout à l'heure au vote dans d'autres grandes villes de France en essayant d'accomplir cette prouesse technique qui consiste à aller appeler des candidats à Marseille, à Lyon, à Toulouse et puis aussi à Angers, qui nous a semblé une ville intéressante puisque c'est une des rares villes où la droite risque de renverser la gauche.
Ouais.
Mais laissez-moi avant cela, Caroline Després, vous présenter les petits chenapans qui m'entourent, à commencer par la merveilleuse Carole, réalisatrice de cette émission. Bonsoir Carole.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Qu'est-ce que tu as prévu ce soir ?
Ah, moi ce soir je suis une spécialiste du quiz de l'actu, mais l'actu cette semaine c'est surtout les municipales, donc j'espère que vous avez bien écouté la radio, bien lu la presse.
On a bossé.
Vous avez bossé tout le week-end, en plus de voter il a fallu bosser.
L'autre femme de l'équipe c'est la formidable Bérangère, bonsoir Bérangère.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Donc ce soir je vais vous parler d'un site internet qui mélange peer-to-peer, microcrédit et PayPal.
Formidable. Et enfin, l'inénarrable Philippe à côté de moi. Qu'est-ce que tu as prévu, Philippe, ce soir ? Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir Caroline. Alors ce soir, bonsoir. On va parler de violence, de sacré et de tectonique.
Et puis ne manquez pas aussi notre jukebox politique tout à l'heure avec ce soir un petit bijou, je crois, Philippe, une chanson de campagne de Chirac pour Paris. Je pense que ça va vous plaire, Caroline, aussi. Et on embrasse tous, bien sûr, aussi Xavier qui, malheureusement, a dû passer le tour ce soir, arrêter sa participation à cette émission, mais on l'embrasse bien fort. Alors, Caroline Després, parlons d'abord des élections qui vous concernent à Paris. Vous étiez donc candidate dans le 16e, donc je suppose que tout va bien. Vous avez été élue hier.
Notre candidat est passé au premier tour.
Avec combien ?
51,7% des suffrages.
C'est joli.
Ce qui est bien, ce qui est correct.
Un peu juste pour le 16e quand même.
Non, parce qu'on a un dissident de droite. Donc après, quand on additionne les voix de la droite, il n'y a pas, de grosse déception par rapport à ce qu'on fait nos deux députés.
Ça représente combien à peu près ?
Ça fait 51, 14 et 4. On est à 68 à peu près. 68%, ce que font à peu près les deux députés aux législatives. Donc il n'y a pas eu de perte de voix.
On peut peut-être préciser que c'est le seul arrondissement qui soit passé dès le premier tour à droite,
voilà.
Ça, sur Paris.
Sur Paris, ouais. Il y a le 7e qui était limite, mais il manquait 82 voix à Rachida Dati pour.
Donc c'est finalement une partie de sa mission qui est respectée, vu qu'il avait dit qu'il voulait faire le plus beau score pour la droite, pour Paris.
Oui, voilà.
Donc là, il a réussi.
Il a réussi son objectif.
Oui, parce que alors sur Paris, est-ce qu'on m'entend là ? J'ai l'impression que non. Si on m'entend, formidable. Parce que alors sur Paris, l'ensemble des voix, alors si vous disiez 68% dans le 16e, à Paris, c'est moins de 30% des voix pour l'UMP quand la liste de Lannoy est autour de 42.
C'est une bérésina là pour la liste.
C'est une déception. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voté au premier tour. Il y a des sondages qui étaient mauvais, qui ont fait que les gens se sont dit c'est perdu, donc ils se sont pas mobilisés. Il nous reste une semaine, nous, pour les mobiliser, pour qu'ils viennent voter dimanche prochain. Mais bien sûr, il y a une élection aussi à deux tours, c'est bien pour... Il y a une raison et c'est pas pour que tout se joue au premier tour. Donc, il y a des endroits où on va pouvoir remonter. Je vous dis pas qu'on va gagner Paris dimanche, mais la défaite sera peut-être pas aussi cuisante que vous l'annoncez.
Oui, une des grandes communications qu'on a entendues sur Paris pour expliquer un petit peu les résultats de la part de Madame de Panafieux, c'était tout le temps de dire « Bon, aux urnes quand même, il n'y a pas eu une grande participation sur Paris. » Est-ce que c'est pas un petit peu pour ne pas parler des résultats qu'elle a dit ça ?
Alors, il faut quand même voir les chiffres. Il y a un taux d'abstention à Paris qui est beaucoup plus élevé que dans le reste de la France. Donc ces gens-là, il y a une raison pour laquelle ils n'ont pas voté. Est-ce qu'ils se retrouvaient pas dans notre projet ? Est-ce que c'est les sondages qui les a fait mentir ?
Est-ce que c'est Françoise de Panafieux qui
peut-être qu'ils ne se sont pas reconnus dans la candidate, mais derrière il y avait un projet, il y avait un programme. Et peut-être que nous, on n'a pas assez axé notre communication sur les idées. Et...
Moi, j'ai l'impression que la candidate Panafieux n'a pas vraiment, au cours de la campagne, trouvé d'arguments forts contre Delannoy, finalement.
Elle avait un slogan qui n'était pas mauvais, qui était « L'essentiel, c'est vous ». Et je veux être le maire de l'essentiel, et l'essentiel, c'est vous. Et en effet, je pense que Delannoy, il a pas résolu les grands problèmes. Il a fait des choses qui sont très bien. Vélib, les élus UMP étaient pour Vélib, hein, donc quand il parle de Vélib, il a pas inventé le Vélib, quoi. Il a refusé la proposition il y a 2 ans. Et une fois qu'il a trouvé qu'il a vu que ça marchait bien à Lyon, il s'est dit, tiens, nous, on va faire le Vélib. Nuit blanche, c'est très bien. Il y a pas de souci. Mais c'est pas la vie quotidienne des Parisiens. Il manque des places en crèche, il y a des problèmes de logement, il y a des problèmes de circulation. Pour venir ici, j'ai mis une demi-heure depuis le 8e.
On précise qu'on est plus tôt. Hein.
Voilà. donc il y a quand même des soucis que Bertrand Delannoy n'a pas su régler et qu'il a, avec une politique un peu paillette, masquée et une excellente communication, il faut le reconnaître. Il faut reconnaître aussi les qualités de ses adversaires. Et il a eu une excellente communication.
À l'inverse de Françoise de Panafieux qui a eu des petits problèmes de communication.
Je pense qu'elle n'a pas assez bien communiqué sur son programme parce qu'il y avait des choses qui étaient très bien là-dedans. Mais bon, on a une semaine pour le faire.
Comme quoi ? Quels sont les points, selon vous ?
Par exemple, je vous disais qu'il manquait des places en crèche dans le programme de Delannoy. Enfin, dans la mandature surtout de Delannoy, Françoise de Panafieux, elle propose une allocation de 300 euros pour les gens qui n'auront pas de place en crèche. Donc voilà, ça, je suis sûre que la plupart...
Qui est financé comment, ces 300
qui
euros ?
Qui est financé... je ne sais plus exactement. Il y avait ça, il y avait aussi les crèches d'entreprise. Enfin bon, je ne vais pas parler des crèches toute la soirée non plus. Hein, c'est pas le... Mais c'était, voilà, vous me demandiez une idée comme ça...
D'accord, on l'a vu hier soir un petit peu aux abois faire appel au Modem en leur demandant de faire alliance avec eux, mais visiblement Marielle de Sarnez, la tête de liste du Modem, elle semblait davantage penchée du côté de Delannoy.
Qui ne penche pas vers elle du tout, par contre. Alors il y a.
Mais est-ce que vous le regrettez quand même ça ?
De quoi ? Que Françoise de Panafieux ait fait appel à Marielle de Sarnez ?
Non, que Marielle de Sarnez ne réponde pas à vos appels.
Elle aurait précisément dit les conditions ne sont pas remplies donc, par Françoise de Panafieux pour faire un bout de chemin ensemble.
Et pourtant, je pense que le programme du Modem était beaucoup plus proche du programme de Françoise de Panafieux que du programme de
Bertrand Delannoy. Alors comment ça se fait ? Comment vous l'expliquez ?
Il y a une politique... On sait très bien que Paris est regardé, qu'il y a une image du Modem national à défendre et que c'est un peu dans la lignée de ce qui s'est fait pour les présidentielles, de la politique de François Bayrou depuis maintenant 7 mois, on ne sait pas très bien où il se situe, mais plutôt à gauche, mais pas vraiment non plus, quoi. Donc ça, c'est assez cohérent, hein, finalement.
Dans le 16e, il y a un élu de Claude Guesguen.
Voilà, député tête de liste.
Voilà, qui s'était présenté également à la candidature.
Ouais.
Est-ce que vous pensez qu'il aurait fait mieux que Françoise de Panafieux ?
Je ne sais pas si Claude Guesguen aurait fait mieux. Ils étaient 4, il y en a beaucoup. Il y a Bernard Debré aussi qui voulait se présenter et qui n'avait pas participé aux primaires. Maintenant, ce n'est plus le moment de se demander si Françoise de Panafieux était la bonne candidate. On avait un bon projet. Elle a été désignée par les militants UMP. Après, peut-être qu'elle a été désignée trop tôt parce qu'il y a eu les municipales, il y a eu les présidentielles entre-temps. Voilà, mais en même temps, ça lui laissait le temps de travailler le projet. Donc voilà, maintenant, il n'est plus le temps de se poser ces questions à 5 jours du premier tour.
Ouais, c'est trop tard et c'est râpé.
C'est pas râpé, c'est... Ben, non, mais ça sert à rien.
Il va falloir en faire des marchés.
Qu'est-ce que ça fera avancer de se dire Françoise de Panafieux est ou pas la bonne candidate? De toute façon, c'est la candidate. Maintenant,
vous,
c'est à nous de la défendre.
Vous êtes engagée pour suivre Françoise de Panafieux ou parce que vous vous intéressiez...
Moi, je me suis engagée beaucoup plus tôt que les primaires parisiennes, beaucoup plus tôt.
Pourquoi
vous êtes engagée? Moi, je me suis engagée en 2002, juste après les présidentielles, avec un Jean-Marie Le Pen au second tour, un certain 21 avril.
Qui n'existe pratiquement plus aujourd'hui.
Voilà. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, il faut bouger. Et j'ai tapé la porte de ce qui commençait à être l'UMP, qui était l'Union pour la majorité présidentielle à l'époque. Et j'ai commencé à ce moment-là avec les législatives de juin 2002. La politique municipale parisienne n'était pas mon objectif. Après, j'ai suivi ma route.
Très bien. Alors, avant de se plonger dans maintenant les élections municipales en France et d'aller essayer d'attraper une liaison, je vois Carole qui s'agite au fond du studio pour essayer d'attraper une liaison avec certaines villes de France, on va écouter tout de suite la chronique de Bérangère sur, bien sûr, le web, comme vous en avez l'habitude maintenant.
Ségolène Royal n'a qu'un seul défaut, c'est son compagnon.
Chères auditrices, chers auditeurs, chers internautes, je dirais même, chers audinautes, bonsoir.
Je suis...
Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle chronique de Clic Clic Politique. Grâce à Internet, nous sommes devenus en quelque sorte maintenant des citoyens du monde. Alors je vais vous poser une petite question. Qu'y a-t-il de commun entre Kobil Kalonov, gardien d'animaux au Tadjikistan, Bassan Mohamed, barbier au Liban et Julia qui vend des légumes au Pérou? Et oui, je vous pose la question maintenant.
Ils ont tous des prénoms ridicules.
Ah, c'est une bonne piste, oui.
Pourquoi pas? Bon, Caroline, une idée?
Ils ont tous un blog, non?
Ils sont sur YouTube.
Non, peut-être d'ailleurs, peut-être, mais
en Facebook.
Ils ont tous les trois trouvé les fonds pour lancer leur activité commerciale sur le site de microcrédit kiva.org.
Formidable.
Le microcrédit, qui se développe surtout dans les pays en développement, est un système qui permet l'attribution de prêts de faibles montants à des entrepreneurs ou des artisans qui ne peuvent accéder aux prêts bancaires classiques. Alors ça, vous connaissez, Mohamed Younous, prix Nobel de l'économie. On a un emblématique...
L'année dernière, c'est ça?
Je crois que l'année dernière, oui, il y a deux ans. Ouais. Mais Jacques Attali, à travers Planète Finance, en est aussi un emblème.
J'ai vu que Zinedine Zidane aussi se lançait là-dedans.
Sur le microcrédit
avec Dana.
Pourquoi pas?
Il y a un vrai mouvement et ce site en est un peu le fer de lance. Il a été créé en 2004 par Matthew et Jessica Flannery. Et qui va donc signifie accord en Swahili. Alors c'est en quelque sorte le peer-to-peer du microcrédit.
Pourquoi pas. Swahili, mais très bien.
J'ai pas bossé mon Swahili pour ce soir, je suis désolé.
Donc l'objectif de Kiva, c'est prêter une petite somme d'argent pour monter un commerce ou développer une activité qui leur permettra de faire vivre leur famille. Donc c'est un système de solidarité via le web. La fiabilité de ce système est totale. L'association Kiva ne verse pas directement l'argent collecté via le web aux petits entrepreneurs, mais s'appuie dans chaque pays sur un réseau de banques de microcrédit. Ce sont les banques effectivement présentes sur le terrain qui sélectionnent les projets à soutenir, s'assurent qu'ils sont réalisables et vérifient que l'argent est bien employé. Après, Kiva collecte les prêts et les transfère à la banque locale qui les avance à l'entrepreneur. Inversement, les sommes récupérées sont reversées à l'association qui rembourse les prêteurs dans un délai maximum de 2 ans. Alors comment on peut participer, nous, citoyens du monde, à cette chaîne solidaire?
Mais comment participer à cette chaîne solidaire?
Eh bien c'est simple, vous allez sur le site kiva.org, vous choisissez un entrepreneur dont le projet vous intéresse. Il faut avoir quand même un petit coup de cœur. Et vous versez en ligne, grâce au système sécurisé PayPal, qui est beaucoup utilisé sur Internet, notamment par le site eBay, une somme dont le montant minimum est fixé à 25 euros. Vous serez tenu informé de l'avancement du projet, que vous soutenez par email, grâce aux banques de prêts se trouvant sur le terrain. Et l'argent que vous aurez avancé vous sera remboursé, ça c'est quand même important, dans les délais fixés par l'entrepreneur. En général, c'est entre 1 an et 18 mois. Vous aurez alors le choix de quitter Kiva ou de réinvestir, si cette expérience vous a plu, cette somme dans un autre projet.
D'accord. Alors, on ne parraine pas un enfant, on parraine un entrepreneur. Quoi.
Un entrepreneur, une famille, une idée, une économie. Okay. Alors quelques chiffres quand même sur ce site internet. Aujourd'hui, Kiva, c'est 11 millions de dollars qui ont été prêtés par plus de 100 000 personnes, y compris les étudiants, les retraités, l'UMP, PS, tout le monde peut y aller. Et dernière précision, Kiva existe aussi grâce au soutien de nombreuses entreprises à Silicon Valley, notamment PayPal et Google.
Formidable. Ce sera tout pour aujourd'hui?
Ça sera tout pour aujourd'hui.
Très bien. Alors, il est temps, je crois, de nous lancer dans ce tour de France des villes françaises. Et la première, c'est Lyon. Et normalement, nous sommes en liaison, si tout va bien, avec Arnaud Benamou. Bonsoir, monsieur Benamou. Est-ce que vous m'entendez?
Bonsoir, monsieur.
Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. C'est une première pour nous, hein, donc on est ravis que la liaison marche, ça paraît presque incroyable. je redécouvre le téléphone. Bon, alors, vous êtes sur la liste de Gérard Collomb à Lyon.
Oui.
Vous êtes candidat dans le 3e arrondissement de Lyon.
Oui, alors je ne suis plus candidat. Hein. Je ne suis plus candidat puisque dimanche soir nous l'avons apporté au.
Oui, exact. Jour. Félicitations. Vous êtes élu. Voilà, c'est ça. J'attendais la confirmation. c'est toujours comme ça à Lyon, le match est plié à la mi-temps, quoi.
Oh, joli.
Merci.
Comment vous m'avoir un peu fatigué, mais nous avons une belle victoire.
Vous avez beaucoup crié, c'est ça? Comment vous vivez cette victoire?
D'abord, c'est pas fini, il reste un deuxième tour. On a gagné au premier tour les 6 des 9 arrondissements de la ville. Et il reste à confirmer, peut-être espérer un grand chelem.
Oui, parce que Gérard Collomb a annoncé sa victoire hier soir, dès le premier tour, en fait.
Oui, avec, si ma mémoire est bonne, 53 sur l'ensemble des arrondissements.
53%. Comment vous expliquez un tel score et d'une certaine manière la claque de l'UMP à Lyon?
Alors le score, avant de parler de l'UMP, d'abord il y a un bilan, il y a un bilan Gérard Collomb. Lyon a beaucoup changé sur la dernière mandature en 6 ans, c'est visible, c'est notamment les Vélov', que Paris nous a copié bientôt Londres avec les Vélib', l'expérience.
Que vous avez copié d'une ville en Bretagne, hein, je crois. Oui, c'est possible.
Il y a eu les berges du Rhône. À Lyon, nous avons la chance d'avoir le Rhône et la Seine, mais les berges étaient des parkings. Nous avons aménagé tout ça. Donc ça, c'est le bilan avec d'autres points. Et il y a le projet, l'envie de continuer, de voir que le travail a été fait et que beaucoup reste à faire. Et puis l'UNP, vous m'avez demandé la claque. Je pense que le tennis, qu'il faut parler de lui, Dominique Perben a commis beaucoup d'erreurs, notamment dans le 3e arrondissement, puisque moi je me présentais dans cet arrondissement. Notre équipe, nous avions son équipe en face et nous avons pu suivre ça.
Oui, c'était l'arrondissement clé et il a pris
une assez lourde défaite. C'est le plus peuplé, le plus grand de Lyon. C'est grosso modo un quart de la population avec 90 000 habitants et un quart de la superficie de la ville.
Ouais.
Et un arrondissement historiquement toujours à droite, qu'on disait imprenable pour nous.
Ouais.
Donc la victoire a été encore plus belle.
D'accord. Et alors la suite pour vous maintenant, c'est quoi? Vous êtes élu, vous allez siéger?
La suite cette semaine, c'est de retourner sur le terrain avec plaisir pour aider.
Dans les derniers arrondissements.
Voilà. Et puis après, apprendre ce métier d'élu, la République. J'ai 31 ans, c'est nouveau pour moi. Donc c'est impliqué dans la mairie, dans les projets. Lyon, Paris, Marseille, nous sommes tenus de.
Vous disiez, c'est une première campagne pour vous. Comment vous avez vécu sur le terrain cette campagne, la rencontre avec les gens, le démarchage? Comment vous l'avez vécu?
Vous me dites c'est une première. J'étais journaliste et je suis toujours journaliste. Mais j'avais vécu ça en tant qu'observateur et
vous êtes chroniqueur musical, c'est ça?
On a toujours une frustration. Donc j'ai assouvi cette frustration et d'aller au contact. C'est vraiment ça le sens d'un engagement local et d'un mandat local, c'est de parler aux gens, de les écouter, d'écouter beaucoup encore, de les découvrir.
Okay.
Et ça c'est super.
Bon bah écoutez, en tout cas on vous remercie Benamou d'avoir été avec nous. Et puis donc encore une fois bravo pour cette
félicitations
pour cette victoire à Lyon. Ouais. Merci.
Merci.
Et très bonne soirée.
Et bravo pour votre première.
Merci.
Au revoir.
On va tout de suite se rendre dans une seconde ville en France. Il s'agit d'Angers, une ville un peu spéciale puisque c'est une des rares villes en France qu'on ait pu trouver où il y a un risque ou une chance, c'est selon comme vous le prenez, que ce soit la droite cette fois qui détrône la gauche. Et nous sommes en ligne avec Romain Thomas. Bonsoir Romain.
Bonsoir.
Notre
Bonsoir.
Ville s'est distinguée hier en étant un peu à contre-courant de tous les résultats nationaux, puisque le maire sortant PS, Jean-Claude Antonini, est devancé par le jeune président du Conseil Général, Christophe Béchu, qui a 32 ans, c'est ça?
Exactement, 33.
33 ans maintenant, alors vous êtes...
33 ans, il va avoir 34 au mois de juin.
C'est pas un bon présage. Alors vous êtes numéro 6 de la liste, vous avez 28 ans, c'est votre première campagne. Je suppose que vous devez être assez euphorique depuis le score d'hier soir, d'autant que les sondages n'étaient pas aussi bons que le score final.
Et
écoutez, il n'y a pas d'euphorie. Il y a juste la confirmation de ce qu'on sentait depuis plusieurs semaines sur le terrain. Ouais. Depuis trois mois, nous sommes en porte-à-porte, en rencontre d'appartements, sur les marchés, avec les Angevins, à provoquer des réunions et des échanges. Et on sentait ce mouvement. On a beaucoup fait campagne contre les sondages, contre un contexte national qui était difficile pour une partie de notre liste qui représente la famille politique de l'UMP, mais on a su, et Christophe Béchu a su, d'abord rassembler des gens de toute sensibilité politique,
du centre à la gauche,
en passant par la droite, et le centre droit et le centre gauche, et surtout en renouvelant, puisqu'il y a plus de la moitié de la liste dont les colistiers n'ont jamais été candidats à des élections, qu'elles soient locales ou nationales. Donc c'est ce gage de rassemblement et de renouvellement est pour Angers, je pense, un vrai atout pour le deuxième tour, et le fait que pour le premier tour les Angevins aient choisi ce rassemblement et ce renouvellement nous montre qu'il y a la possibilité d'un changement à Angers après 30 années d'un pouvoir qui aujourd'hui s'use et s'érode.
Alors ça a été un petit peu votre stratégie, j'ai l'impression, Angers, parce que vous avez vraiment joué la carte de la jeunesse. On le disait, la tête de liste a donc 33 ans, hein, et puis votre slogan, choisir l'avenir, finalement l'idée de la campagne c'était un peu de faire passer le maire actuel pour un vieux ringard, non ?
Il n'y avait pas d'attaque sur l'âge ni sur les personnes. Il y avait l'idée que face à une équipe dont le principal candidat, dont le maire sortant, exerce des responsabilités depuis mars 1977, il y avait l'urgence d'un changement et d'un renouvellement qui est nécessaire pour Angers. C'est bien le sens de notre slogan, comme vous l'avez rappelé, Angers choisir l'avenir. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de débattre pour savoir si le bilan du maire sortant était bon ou pas. On est en train de décider jusqu'en 2014, à qui on confie les destinées et les clés d'Angers. Voilà. Et je pense que ce débat-là, il est valable dans toutes les villes. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la lecture qu'on fait des résultats aujourd'hui est difficile, puisque vous avez des villes où l'impact de l'enjeu national existe, et vous avez des villes comme à Angers, où il n'y a pas d'impact du vote national, et que les Angevins se sont prononcés en connaissance de cause sur des projets et des enjeux locaux. Et c'est la raison pour laquelle on a su, encore une fois, rassembler et renouveler autour des questions qui intéressent les Angevins, en l'occurrence la sécurité, le logement, l'urbanisme, la propreté, des questions locales qui n'ont rien à voir avec toutes les considérations qu'on a voulu leur infliger pendant trois mois de campagne.
Cette volonté, Romain, d'essayer de localiser au maximum, c'est aussi la raison pour laquelle Christophe Béchu a pas souhaité recevoir ni François Fillon, ni Nicolas Sarkozy. François Fillon qui est pourtant assez fortement impliqué localement puisqu'il a été président de la région Pays de la Loire. Pourquoi il n'a pas été invité à venir soutenir Christophe Béchu ?
Tout simplement parce qu'on a souhaité depuis le mois de septembre, donc c'est une volonté qui remonte à très loin, à six mois, on a souhaité dès le mois de septembre se libérer de tous les appareils politiques et de toutes les étiquettes. Et moi, je suis personnellement membre de la famille UMP, membre de l'UMP, et pour autant, je suis le premier à dire qu'il est nécessaire que cette campagne se déroule sans connexion avec le national. Et donc c'est la raison pour laquelle, même si je soutiens la politique conduite par François Fillon, je trouve indispensable que et le président de la République et le Premier ministre ne se mêlent pas forcément de tous les enjeux des 36 000 enjeux locaux qui ont existé ou qui existent encore pour ces élections municipales et cantonales. Donc on est bien dans nos baskets, je suis bien dans ma famille politique, mais pour autant, pour ces élections municipales à Angers, je considère que c'est pas une mise de droite contre une mise de gauche, c'est pas des soutiens de droite contre des soutiens de gauche, c'est une logique de rassemblement et de renouvellement pour Angers. Voilà. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que si nous sommes élus dimanche prochain, si Christophe Béchu arrive à emporter la confiance des Angevins, ce que je souhaite et ce pourquoi on se bat, eh bien, la majorité municipale, elle sera transpartisane, et il y aura un groupe de la majorité, et non pas des petits groupes représentant nos tendances politiques, et on sera tous guidés par le même objectif, c'est-à-dire servir Angers et faire en sorte que ça change à Angers.
Bonsoir,
donc on est dans une logique de rassemblement.
28 ans, il a déjà tout compris.
Bonsoir Romain, moi j'ai une petite question. Concrètement, par exemple, si on prend le thème du pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous avez proposé pour les Angevins et les Angevines pour que ça se passe mieux localement et qu'ils soient rassurés ?
Eh bien concrètement, le pouvoir d'achat, c'est d'abord agir sur le logement. Et à Angers, vous avez des logements sociaux dont les loyers ont augmenté de 45% ces dernières années. Pourquoi ? Parce que le bailleur social municipal, Angers Habitat, a décidé de rénover les logements, mais en contrepartie n'a pas impacté la hausse des loyers consécutive à ce renouvellement des appartements ou des logements. Si bien que vous avez des locataires qui se sont retrouvés avec des logements rénovés, mais avec des loyers qui ont augmenté de 45% ces dernières années. Et comment voulez-vous offrir à des habitants ou des enfants, des enfants qui logent dans des logements sociaux plus de pouvoir d'achat si vous fonctionnez par l'intermédiaire du bailleur social de la ville, en l'occurrence en j'habitais encore une fois, si vous leur impactez des hausses de loyers, même si c'est en contrepartie de rénovation ou de renouvellement.
Ça, c'est un acte fort. Et nous proposons
comme à Rennes, qui n'est pas une ville de droite, si mes souvenirs sont bons, comme à Rennes, de faire en sorte que la ville paie la contrepartie à Ange Habitat de l'impact de l'opération dans l'élément urbain sur la rénovation et le renouvellement des logements sociaux. Donc c'est un acte, je prends cette mesure parce qu'elle nous paraît symbolique.
Et comment vous trouvez les fonds pour justement payer cette contrepartie,
Les fonds, ce sont des priorités politiques. Et très honnêtement, je vais vous dire une chose. À Angers, il existe une manifestation qui s'appelle les Accroche-Cœurs, qui a lieu une fois par an, au mois de septembre, qui est une manifestation culturelle qui concerne l'ensemble de la ville d'Angers, qui se déroule sur un week-end. Cette manifestation coûte 1 million d'euros. 1 million d'euros. Pour votre information, comparaison avec ce qui est consacré à la mission locale qui concerne 6 000 jeunes en recherche d'emploi, c'est 600 000 euros par an. Eh bien, nous proposons, et le maire sortant, Jean-Claude, propose de doubler les accroche-cœurs dans son programme électoral, c'est-à-dire qu'au lieu d'un week-end, il y aurait 2 week-ends. Si bien que ça monterait à 2 millions d'euros. Eh bien, nous estimons que si on peut maintenir les accroche-cœurs, même en payant moins, on peut faire d'autres choix, on peut accorder d'autres priorités à la politique municipale que celle d'accorder 2 millions d'euros à une politique culturelle dont on conteste par ailleurs beaucoup de choix, mais on préfère les mettre dans le logement social, dans le fait de construire plus de logements, et surtout dans le fait d'augmenter le pouvoir d'achat des Angevins, notamment les plus modestes.
Ok. Bah écoutez, c'est parfait, on se sera plongé dans la vie des Angevins pendant quelques
voilà.
minutes.
Mais le logement, c'est une vraie priorité, et en tout cas, si nous sommes élus, ça sera une vraie priorité du mandat de Christophe Béchu, et notamment la construction de logements. C'est un défi dans beaucoup de villes, et c'est un défi notamment à Angers, on n'a pas construit suffisamment de logements, et donc c'est un maire de gauche qui nous donne des leçons en matière de logement social, en matière de construction de logements, ben nous souhaitons répondre à ce défi de la manière la plus positive qui soit.
Romain, vous m'aviez dit que vous aviez une réunion à 20h30, il est 20h31, donc on va...
Je vais être en retard, et c'est une réunion de campagne parce qu'on a 6 jours pour convaincre et pour gagner la confiance des Angevins, pour leur montrer que le dimanche 16 mars, c'est possible.
Et bah, bon courage pour tout ça, bon courage pour cette fin de campagne.
Merci à vous.
Et puis on attend dans ce studio Christophe Béchu, j'espère, dans quelques semaines. Merci beaucoup.
J'espère que vous accueillerez non plus le président du Conseil général, mais le maire d'Angers.
Nous l'espérons aussi. Avec votre faconde, ça devrait être facile.
Merci beaucoup, Romain.
À bientôt. Bonne soirée à vous.
Au revoir.
On va tout de suite faire une petite pause en allant piocher dans notre jukebox politique une musique qui, je crois, devrait vous plaire, Caroline, puisqu'il s'agit d'une musique de campagne de Chirac. Pour Paris.
Pour que la Seine ne charrie plus de poissons morts, qu'on s'y promène et qu'on y puisse rêver encore. Pour que Paris des artisans, pour que Paris des petits marchands, dans chaque rue continue comme avant. Les amoureux de Paris sont unis, tous unis, avec Chirac ou Paris,
Chirac ou Paris,
tous unis. Les amoureux de Paris sont unis, tous unis, Paris retrouvé et digne de son passé. De Notre-Dame, du Luxembourg à la nation, Paris, ton âme est vouée à la démolition. Pour que Paris, Champs-Élysées, pour que Paris, la mode piquée, le ventre ouvert n'est plus l'air d'un chantier.
les amoureux de Paris sont unis, tous unis, avec Chirac pour Paris,
Chirac pour Paris,
tous unis. Les amoureux de Paris sont unis, tous unis, dans un Paris retrouvé et digne de son passé. Paris, ma ville, pour que l'on garde tes quartiers, la vie tranquille pour y flâner et musarder, pour que Paris du renouveau, plus jeune encore, bien dans sa peau, efface le temps comme au temps de Malraux. Les amoureux de Paris sont unis, tous unis, avec Chirac pour Paris,
Chirac pour Paris,
tous unis. Les amoureux de Paris sont unis, tous unis, dans un Paris retrouvé et digne de son passé. Les amoureux de Paris sont unis, tous unis, avec Chirac pour Paris,
Chirac pour Paris,
tous unis. Avec Chirac pour Paris, 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 uni pour Paris.
Uni pour Paris.
C'était beau, hein.
Formidable.
Ça vous plaît, cette musique, Caroline ?
Beaucoup, beaucoup.
Vous n'aviez pas, vous, de chansons de campagne, là ?
Non.
Ça se fait plus, ça ?
Ça se fait plus, hein. On a vu pendant les anciennes présidentielles, il y en avait même nous, pendant les présidentielles, on a eu... Ouais, mais ça se fait moins que dans les années 80.
Ça vient plus des militants,
j'ai l'impression. Voilà, ça vient de la base.
Mais par contre, vous aviez une web TV, 16 TV sur Dailymotion.
Exact.
Avec 84 vidéos et 16 amis. Et 10 fans. Alors, je dis, quel est le compte rentabilité, travail effectué?
C'est pas parce que les gens sont pas nos amis sur Dailymotion qu'ils ont pas vu nos vidéos. Donc, non, c'était bien.
Ça a bien
c'était
marché.
Ouais, c'était, autant se servir des nouvelles technologies et c'était un moyen assez facile pour que les gens puissent nous rencontrer parce que bon, c'est bien d'être sur les marchés, mais enfin, tout le monde va pas faire son marché le mercredi à 11h du matin. Donc voilà, pour les gens de notre génération, c'était bien qu'on puisse aller chez eux par leurs écrans d'ordinateur.
Ok, alors Caroline, maintenant on va essayer de partir un petit peu plus loin, sortir
au
un
soleil,
petit peu de ces élections pendant quelques instants, le temps de la chronique de Philippe qui va nous emmener ailleurs.
La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur la terre.
Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.
Bonsoir, alors je vais pas vous emmener si loin que ça, malheureusement, puisque j'ai pris un ton grave ce soir pour vous parler de violences de sacré et de tectonique.
Aïe, aïe.
Oui, hier, c'était dimanche, la foule suit à la télévision des élections pour lesquelles elle n'a pas voté, le bâillement guette, surtout à Paris. Vautré sur le canapé, tel un morse accablé par le soleil, j'avais mis la main sur le sceptre du pouvoir familial, le bâton du maréchal des logis, la zapette. Alors donc, les images se succèdent donc dans l'ennui devant moi, quand tout à coup, le temps s'arrête. Mon doigt impérial hésite, stupeur, apparaît à l'écran Georges Fraîche. Et je me dis, tiens, ce mec est encore là. Zappons plutôt sur du curling. Mais le cœur n'y est déjà plus. Regarder des hommes heureux avec des balais devait être ma contribution à la journée de la femme. Mais là, je me lasse vite, je redappe. Georges Fraîche reste dans ma tête. La sueur, le stress, je ne sais pas, mon doigt rip et je tombe sur de la tectonique. Alors, affolé, je change de chaîne, c'est trop tard. Comme la tache sombre qui s'accroche à toute chose quand on a fixé le soleil, ma rétine a imprimé les silhouettes brûlantes et définitives de la tectonique et de Georges Fraîche.
Et l'ensemble mêlé devait être...
Eh ben justement, c'est pas fantastique l'ensemble mêlé. Alors pourquoi ces deux images se brouillent-elles donc dans mon esprit? Pourquoi me hantent-elles? Alors, c'est vrai que la tectonique, comme Georges Fraîche, ça constitue pour moi une énigme de notre époque. C'est là, et ça s'impose à nous contre toute logique. Alors pour comprendre au moins un des deux, c'est-à-dire la tectonique, étudions ses symboles. La coupe déjà, cette semi-crête, on connaît, ça vient des urbosexuels et des footballeurs espagnols. Par contre, la nuque longue derrière, ça s'appelle un mulet, et ça c'est le foot allemand des années 80. L'Allemagne, une tendance lourde dans la tectonique, puisqu'il y a une écriture gothique, une orthographe gothique aussi, hein, Arsis tectonic, et un aigle, tendance Anschluss, qui fait très germain lui aussi. Donc bon, premier contact avec la tectonique, on est un petit peu surpris.
D'autant que les couleurs, les motifs, les baskets, tout ça plaide pour un retour puissant vers les années 80, ce qui n'était pas, on s'en souvient, le top non plus en matière de look.
Les années 80, l'époque ou les années où le lait était à la mode.
Oh, c'est joliment dit. En tout cas, je passe sur le
fait... mes amis.
Il s'habille en années 80.
Voilà, c'est pour ça en fait. Il s'excuse déjà. Mais je passe sur le fait qu'ils aient réussi à réunir le jean slim, le mi-bas et le leggings dans une même mode, ce qui constitue quand même trois des cavaliers de l'apocalypse du bon goût. Et on comprend que la tectonique revisite à coup de marteau le look coco, le look qui colle à la peau, puisque c'est
le look coco.
Merci. Puisque c'est du slim. Alors, pour donner une étiquette scientifique, la tectonique, c'est du post-néopunk 80s à tendance crypto-gay. Tendance crypto-gay ?
Qu'est-ce que c'est ?
Dis-moi.
Bah, en fait, pas si crypto que ça, si j'en juge par les portées qu'ils réalisent quand ils font des battles. Alors, ils se dansent en phase, là, ils se portent, ils se touchent, ils se frôlent, et ils appellent ça se faire l'amour. C'est un peu le mouvement
c'est
hippie. Oui, c'est un peu le mouvement hippie sans la ch'touille et la pénétration. Donc, certes.
Oh mon dieu.
Excusez-moi. Donc, certes, c'est un mouvement de puceau. Certes, le coup d'entrée est esthétiquement tellement lourd qu'aucun pédophile ne pourra intégrer les cercles, mais tout de même, on est un peu gêné quand on regarde des tectoniqueurs. Face à ce drôle de patchwork, toutes les analyses rencontrent un mur, le mur de l'ignorance. Car, on l'a bien compris, hein, je n'arrive pas à expliquer ce que c'est. C'est une cacophonie de symboles totalement incompris par ceux qui les portent que nous avons là. Les symboles sont déchus au rang de signes. En somme, les références, le foot allemand, les années 80, les jeans slim, tout ça n'explique en rien la tectonique. Tout ne sert qu'à véhiculer l'appartenance satisfaite et totale au kitsch. Au terme de cette élégante démonstration, lentement émerge la véritable signification politique de la tectonique.
Alors vraiment lentement.
Ouais. Très lentement. On est en face d'une cacophonie propre, d'un désordre rangé, du kitsch, d'une beauté déchue. Nous sommes en face d'une poubelle de style. Et oui, toi, le petit pantin désarticulé, tu es le bouc émissaire de la cité de la mode. On a jeté beaucoup de tendances hein, au cours des 30 dernières années. Mais pour les années 80, le look allemand, la new wave, on avait dit plus jamais ça. Alors... plutôt que de devoir revivre tout ça, on t'apparaît, toi, le bouc émissaire de tous ces signes. Tu es l'anneau sacrificiel, tu gesticules et tu moulines, mais tu ignores le rituel dont tu es le centre. Plus qu'une poubelle, plus qu'un égout, tu es une mesure de salubrité publique, cher tectoniqueur. Un peu comme Georges Frêche et sa rhétorique politique. Alors là, vous ne voyez pas le rapport, c'est tout
non.
à fait normal.
Ah bon.
J'y viens. Lui, Georges Frêche, il est populiste, il va du libéralisme au machisme, il n'est pas très fin, avec une rhétorique d'avant-hier et une échine de vallée pour réintégrer le PS après avoir craché dedans. C'est lui aussi une poubelle de style politique. Garder en spectacle Frêche ou la tectonique, c'est faire en fait d'un spectacle des décharges dans lesquelles on jette tout ce que l'on n'aime plus. C'est en fait un rite exorciste nécessaire à la collectivité. Il porte tous nos péchés de goût. Reste à savoir quand nous immolerons ces idoles. En attendant, nous ne remercierons donc jamais assez ces danseurs martyrs de la tectonique. C'est terrible à dire, mais nous sommes les marionnettistes. Alors dansez, dansez pour nous, et si vous en revenez, je vous le souhaite, oubliez vite.
Merci beaucoup Philippe, merci. Alors on va aller pas très loin de Georges Frêche et de sa ville de Montpellier, puisqu'on va se diriger tout de suite en direct dans la ville de Marseille pour retrouver Nathalie Pigameau, candidate socialiste aux élections municipales dans le 4e secteur de Marseille, candidate PS. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir.
Oh, formidable, la connexion marche, c'est incroyable. C'est formidable, il y a tout qui
après
marche.
Lyon, Angers, Marseille, quel tour de France?
Déjà, quel temps fait-il? Parce que nous, c'est la tempête à Paris.
Il pleut.
Ah, grand oiseau.
Je crois qu'on pourra la considérer comme la question la plus intéressante de l'émission.
La plus politique.
Alors, vous êtes dans le 4e secteur de Marseille.
Vous êtes dans le secteur du maire sortant, Monsieur Gaudin, qui a été élu hier soir au premier tour.
Comment vous appréhendez le second tour, là, dimanche?
Bah, écoutez, c'est très, on l'appréhende très, serré, très bien, parce qu'effectivement, ça, comme vous le dites, ça va être très serré. Mais bon, quand on fait tout le compte, il y a quand même 60% des Marseillais qui sont pour le changement, en faisant le total des listes qui n'étaient pas pour Jean-Claude Gaudin. Quand on fait le calcul...
c'est une façon de voir les choses.
C'est une manière de compter, oui. Moi, j'ai
non, mais il y a d'autres manières de compter. Il y a aussi le fait que pour l'instant, nous avons déjà 19 conseillers municipaux alors que l'UMP n'en a que 13.
Ouais.
Il y a aussi le fait que ce soir, nous venons, je vous le dis en direct, puisque ça vient d'être officiel ce soir, nous venons de faire fusion avec le MoDem. Et donc vous voyez, je vous donne quand même d'autres éléments, il n'y a pas que
il faut
ça
absolument
aussi.
Qu'on appelle
et il y a aussi le fait quand même qu'on a eu deux secteurs qui ont été élus du premier tour au premier tour et en ce qui concerne Lise Narducci et Samagali.
Vous pouvez nous rappeler peut-être le score du MoDem?
Alors le score du MoDem, il est entre 5 et 7% sur
moyenne nationale hein.
Et alors sur le reste de Marseille, globalement, juste pour rappeler, la liste de Jean-Noël Guérini a fait à peu près 39,4%, voilà,
incroyable.
Tandis que 2 points de plus pour Jean-Noël Godin,
Godin 41%.
Jean-Claude,
voilà. Tout à fait.
Jean-Claude Godin, pardon.
Jean-Claude de son prénom.
Jean-Claude. Bon, donc il vous reste là 6 jours. Quels sont les thèmes que vous allez mettre en avant pour essayer de l'emporter?
Les thèmes vont rester les mêmes. Hein. Notre projet, c'est sur le changement.
Quels sont vos arguments?
Plus de places en crèche, des transports collectifs. Hein. Vous rendez compte quand même, on est dans la deuxième ville de France. Alors chez nous, le thème principal, c'est la propreté.
La propreté.
Donc ça peut faire rire beaucoup de gens. Mais ici,
comme ici à Paris,
dans la deuxième ville de France, ben, la ville est sale.
Soyez-vous le Naples français. On suit les déboires de la ville du sud d'Italie et les problèmes de poubelles, et souvent on fait quand même un petit parallèle avec Marseille.
Oui, mais là je pense que le maire sortant va un peu trop loin quand il fait, parce que c'est juste une histoire de patron et pas de patron. C'est-à-dire que lui dit, moi je peux pas régler le problème de la propreté à Marseille, parce que sinon ça va faire comme à Naples, parce que les syndicats vont se mettre en grève, et ça va être le bordel à Marseille, tandis que nous on explique qu'on peut discuter avec les syndicats, et on peut s'imposer en même temps en étant un patron, en disant pas bon ben alors si on peut rien faire pour régler le problème de la propreté, surtout attention ne faites pas grève, surtout laissons la ville sale. Moi ça me fait un peu rigoler de laisser un peu cette question de fatalisme pour dire qu'on peut pas régler le problème de la propreté, mais il y a aussi tout ce qui est transport collectif. Bon, il y a depuis une semaine maintenant.
Et juste sur la propreté, vous considérez que Monsieur Godin n'a rien fait là-dessus?
Ah non, si, il fait en ce moment, puisqu'il a recruté 300 agents qui ne seront plus employés d'ici le 30 mars. Qu'il a employé de janvier à mars, uniquement. Donc effectivement, Marseille est un peu plus propre en ce moment, mais jusqu'à la fin de l'élection. Donc faites attention, Marseillaises et Marseillais, qui écoutez la radio, parce que le 30 mars, ça redevient sale devant vos rues, hein, parce que rien n'aura changé, puisque lui dit qu'il laissera en place, parce que vous savez que chez nous, on a ce qui s'appelle le fini parti, alors que Jean-Noël Guérini a déjà dit clairement qu'il supprimerait le fini parti.
Alors qu'est-ce que le fini parti?
Alors le fini parti, c'est un truc assez rigolo, c'est quand on a fini son travail, on s'en va.
Ah oui, voilà, ah oui, ça j'avais vu ça, c'est l'originalité marseillaise, mais c'est là qu'il va falloir être très fort avec les syndicats quand même, parce que comment vous allez négocier le fait d'enlever cette règle formidable qui consiste à, une fois qu'on a fini notre taf, même si c'est à 3h de l'après-midi, on peut rentrer chez soi?
Parce qu'il y a un gros problème sur la propreté qui concerne pas seulement la propreté.
Mais comment vous allez négocier ça concrètement?
Mais parce qu'on peut discuter avec les gens. Le but, c'est pas de leur dire vous allez travailler 25 heures par jour. C'est de réorganiser toute la collectivité.
Donc vous voulez qu'ils travaillent plus néanmoins.
Qu'il y ait moins. Comment?
Vous voulez qu'ils travaillent plus néanmoins.
Ben non, pourquoi si leur travail, le travail est bien fait, c'est organisé, enfin on fait tous des journées de 8 heures. Eux, je pense que franchement, avec le travail qu'il y a à faire à Marseille sur la propreté, à mon avis, ils auraient des journées plus longues que ce qu'ils ont en ce moment. C'est une réorganisation du travail qu'il faut faire.
Donc vous allez leur demander de travailler plus.
Regardez le problème, c'est qu'on a quand même cette histoire du fini parti qui pourrait peut-être arranger pas mal de gens, sauf qu'il y a un taux d'absentéisme et un turnover énorme dans ce milieu-là. Donc les agents ne se sentent pas non plus considérés.
Mais néanmoins, donc, revenez contre un acquis social alors de ces personnes, de ces agents à Marseille qui ont obtenu ce fini parti. Comment vous allez renégocier ça? Vous allez leur demander de travailler plus.
Non, mais pourquoi? Pas forcément de travailler en plus. En
si vous leur demandez de respecter... Oui, mais si vous leur demandez par exemple de faire 8 heures par jour, ça veut dire travailler plus à Marseille.
Mais peut-être qu'ils font déjà 8 heures par jour aussi. Hein.
Apparemment, c'est pas le cas. C'est vous-même
avec
qui nous dites
travail, avec le travail qu'ils ont, ils faisaient déjà 8 heures par jour. Hein. Le tout, c'est qu'il faut vraiment réorganiser le travail, puisque vous voyez bien que le fini parti ne règle rien. Donc les agents, de toute manière, eux, ne sont pas contents parce qu'ils se prennent les doléances de tous les Marseillais. Et par ailleurs aussi, il faudra beaucoup plus éduquer les Marseillais parce que effectivement, il y a aussi une preuve d'incivisme qu'il faudra régler par la sanction. Mais après, on est pour mettre en place un cantonnier par rue. On est pour mettre en place donc ils auront peut-être d'autres avantages de l'autre côté. Pour l'instant, vous savez, j'ai pas vu un employé qui travaille dans le cadre du fini parti qui m'a dit non, mais moi, vous voulez enlever le fini parti, je vais voter contre vous quoi. Hein. C'est pas, ils sont au courant de ça, on a discuté, on a rencontré les syndicats, etc. Et ça s'est très bien passé. Hein.
Moi, j'ai une question, madame. Les meetings de Jean-Noël Guérini et Jean-Claude Gaudin ont été diffusés sur la chaîne Public Sénat, la chaîne parlementaire. Les échos qu'on a eus dans la presse en général, c'était un problème un peu de charisme de la part de Jean-Claude Guérini. De Jean-Noël Guérini. Comment vous l'avez vécu? Est-ce qu'il y a eu un travail? Est-ce qu'il a été coaché en termes de communication? Comment c'est passé?
Parce que c'est vrai que c'est difficile de s'imposer face à un monsieur Gaudin, on va dire
monsieur Gaudin,
c'est mieux, voilà, on le sait, et un charisme assez important.
Bon, enfin, un charisme. Si vous me parlez de son imitation de Pagnol,
voilà, c'est ça.
Son charisme, quoi. Hein. Enfin, moi, spécialement, je le trouve pas charismatique parce qu'il imite très bien Pagnol.
Il parle de l'effet Gaudin. Hein.
C'est pas ça. Alors, vous savez, ça plaît à certains Marseillais, ça déplaît à d'autres, hein, parce que c'est un peu la caricature de Marseille.
Ouais.
Le type qui fait 120 kilos, qui a l'accent de Marseille.
Ouais, qu'il en fait trop.
Enfin, voilà, quoi. C'est un peu la caricature. Alors, c'est vrai qu'il parle moins fort et il a moins la Santoni que Jean-Claude Gaudin, notre Jean-Noël Guérini à nous. Mais bon, moi après, enfin voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire sur ça? Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il nous propose. Ce que je sais, c'est qu'à Marseille, il y a jusqu'à une semaine, le métro fermé à 21h. Que dans les quartiers sud de Marseille, soi-disant les quartiers favorisés, il n'y a pas de transport collectif.
Mais quand est-ce que les vélos vont arriver?
On peut pas circuler, que la ville est sale, qu'il n'y a pas de place en crèche. Enfin voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, le charisme après de la personne. Enfin, pour moi, ça m'importe peu, quoi. Puis par ailleurs, enfin, vous savez, quand on a fait nos meetings, nous, on n'a pas fait nos meetings entre militants, quoi. C'était ouvert aux Marseillais.
Donc on a quand même fait 8 meetings
durant novembre et décembre, où il y avait plus de 500 personnes à chaque fois, et c'était pas des militants, quoi, qui venaient.
Il y a le style Pigamo, mais nous, on va devoir se quitter parce qu'on passe donc maintenant en direct de Toulouse.
En tout cas, Nathalie Pigamo, on vous remercie mille fois d'avoir été avec nous en direct de Marseille et à très bientôt et bon courage pour cette fin municipale, les 6 jours qui vous restent, un dernier coup de rein.
Au revoir Marseille.
Au revoir, merci. Et au revoir Marseille et bonjour à Toulouse.
Bonjour.
Bonjour, puisque nous sommes en ligne avec la responsable de la liste Debout, LCR et Motivée. Il s'agit de Myriam Martin. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. On voulait vous avoir ce soir au téléphone parce que vous êtes représentative de ce qui se passe un petit peu aussi pour l'extrême gauche en France. C'est-à-dire qu'on voit que nationalement, l'extrême gauche a marqué des points, en tout cas la LCR, puisque aujourd'hui c'est un peu la LCR qui écrase tous les autres petits partis d'extrême gauche. Il y a, semble-t-il, un effet Besancenot et à Toulouse, c'est assez marquant puisque vous avez fait 5,4% des suffrages, c'est ça?
Oui, en fait, c'est 5,07, mais enfin, bon, on a passé, disons, la barre des 5%, c'est vrai, et puis il y a, je pense, effectivement, une vraie dynamique pour la gauche radicale aujourd'hui qui est en particulier hein, représenté ou incarné par la LCR, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de listes où on était avec d'autres composantes et on a, je crois, marqué un petit peu les voix à gauche de la gauche. Oui.
Est-ce que vous pensez qu'il y a plus nationalement un effet Besancenot alors?
Alors, il y a un effet qui est clair, il y a une dynamique qu'on n'a jamais connue, c'est inédit pour nous. Hein,
on a ressenti pendant la campagne.
Oui, voilà, on a énormément quand même de listes, 29 je crois au moins, où on passe la barre des 10, entre 5 et 10%, c'est à peu près 110. Bon, il y a vraiment quelque chose. Il y a l'effet Besancenot, mais je crois qu'il y a vraiment un effet qui va plus loin que ça. C'est-à-dire, c'est lié aussi, ça s'articule à ce que propose aujourd'hui la LCR, hein, que ce soit en termes de propositions, hein, de plans d'urgence, de mesures d'urgence dans les villes ou généralement au niveau national, mais aussi, il y a un effet peut-être aussi nouveau parti, ou en tout cas l'idée qu'il faut quelque chose à gauche de la gauche qui soit peut-être aujourd'hui, comme nous on l'appelait, comme je disais à Toulouse, sur la campagne du premier tour, ben, qui soit à la hauteur et donc une vraie gauche qui ne renonce pas. Bon, ça s'est vu aussi à Toulouse malgré des difficultés parce qu'on était.
Vous étiez nombreux. Hein, il y avait aussi la lutte ouvrière qui a fait à peu près 1% des voix et le parti ouvrier indépendant qui a fait 0,3%. Pourquoi,
tous ces
éclatements alors que vous-même vous faisiez une liste qui essayait de rassembler au moins l'extrême gauche avec la LCR et les motivés notamment?
Bah écoutez, il y a les motivés, puis l'appel unité antilibérale aussi, il faut savoir qu'il y a aussi avec nous
des militants,
collectif antilibéral. Non mais parce que, d'une part, pour ce qui est du parti ouvrier, là, on n'était pas forcément au courant hein, qu'il y avait cette liste qui se présentait, parce que c'est vrai que c'est arrivé assez récemment, disons, dans la campagne. Je ne pense pas que ce soit une tradition de discuter avec d'autres. En fait, nous, on a discuté avec tout le monde. On a proposé très tôt de discuter avec tout le monde, on a discuté même y compris avec le PC, les R, les ouvrières. Bon, tout ouvrière n'a pas voulu faire d'accord avec nous. Bon, on peut
Et comment vous expliquez que ce soit aussi compliqué, à la fois localement et nationalement, à l'extrême gauche, de faire des accords et de se réunir?
Mais je crois que c'est pas compliqué à l'extrême gauche, ou c'est pas qu'à l'extrême gauche. Je crois qu'il y a deux, il y a une réalité. Il y a deux gauches aujourd'hui, il y a deux orientations à gauche. Il y a une gauche radicale, elle ne se réduit pas à l'ALSER, par ailleurs, même si l'ALSER, je pense, là-dedans, est moteur. Il y a une gauche qui est plus institutionnelle, traditionnelle, qu'on connaît, et qui est notamment dirigée par le Parti Socialiste. Donc, à la gauche de la gauche, on va dire, il y a après, des partis comme Lutte Ouvrière, je crois, aujourd'hui, qui sont dans une situation un petit peu délicate, et qui d'ailleurs ont eu à ces élections une attitude plutôt à géométrie variable, parce qu'un coup c'était tout seul, par endroit ils ont été jusqu'à aller avec le PS au premier tour, c'est quand même inédit. Bon, je trouve ça absolument incroyable et par ailleurs dommageable, parce que c'est bon pour faire perdre un petit peu la boussole aux électeurs, en particulier qui nous intéressent, des classes populaires, mais il y a quand même une dynamique avec la Ligue, autour de la Ligue, qui existe.
Elle alors vous justement, qu'est-ce que vous comptez faire maintenant pour ce deuxième tour? Parce que, alors donc, pour résumer un peu la situation à Toulouse, le maire sortant, Jean-Luc Moudin, qui a obtenu 41,8% des voix, la liste de PS-PRG a rassemblé un peu plus de 39% des voix. Voilà, donc vous êtes une des clés forcément de ce scrutin et
vous avez fait pratiquement autant que le MoDem, hein, en fait.
Oui, voilà, autant que le MoDem. Bon, il y a une configuration un peu particulière à Toulouse, parce qu'il y avait une autre liste, hein, à gauche du Parti Socialiste.
Qui a fait 5%.
Qui se situe entre un petit peu nous et le Parti Socialiste. Donc, il y a un cas de figure un peu particulier, je dirais, toulousain. Mais c'est vrai que, écoutez, donc, on va vous donner un scoop si jamais vous l'avez pas. Parce que c'est passé malheureusement sur les antennes ce soir, Nous avons rencontré, le tête de liste de la liste de la gauche, donc Pierre Cohen. Et nous avons proposé de fusionner.
Une fusion technique, ça ?
Oui, une fusion technique, nous on appelle ça une fusion démocratique. On proposait à M. Cohen de faire une coalition des gauches, tout simplement à Toulouse, pour en gros dire, même si on a des divergences, on peut battre la droite ensemble.
Mais en même temps, vous allez refuser de participer à la majorité municipale, donc vous n'allez pas siéger.
Ah non, pas du tout, c'est pas ça, non. C'est deux choses différentes. Participer à la gestion, c'est pas siéger. Nous, on est prêts à siéger un conseil municipal. La question qu'on mettait au préalable, c'était que nous voulions, parce que je dis bien au passé, parce que M. Cohen a refusé, y compris pour l'autre liste de François Simon, nous voulions garder notre liberté d'expression au sein du conseil municipal. Voilà. En gros, dire, mais se permettre quand même le droit élémentaire, démocratique, de dire on est d'accord, on peut voter avec nous, on n'est pas d'accord, on ne vote pas avec
nous. Donc ça a été refusé par Pierre Cohen.
Ça a été refusé. Je crois que c'est même pire que ça, parce que c'est pas cette discussion au fond de... qu'on a eu, c'est un petit peu, je pense que c'est un véhicule électoral qui est pas très bon de la part de monsieur Cohen et de Staline, c'est de dire en gros, on sait pas trop si la dynamique est intéressante en fait, si avec nous on embringue en gros les deux listes à gauche de la gauche, voilà, pour aller vite. Alors pour un petit rappel quand même, parce que les deux listes réunies, l'autre liste c'est la nôtre, c'est quand même plus de 10% des voix à Toulouse, c'est un électeur de gauche sur scène, c'est 14 000 voix. Bon, ce coin, en gros, ça saute dessus et nous dit, écoutez, on veut bien vos voix, mais pas vous dans les conseils municipaux. À mon avis, c'est pas très logique, c'est pas trop cohérent, et je pense que c'est se tirer une balle dans le pied, parce que ça pourrait créer effectivement une dynamique sur la gauche, et on voit bien qu'à Toulouse, comme ailleurs, et si on veut gagner sur la droite, la vie, elle se gagne à gauche.
D'accord.
Monsieur Cohen ne fusionne pas.
D'accord, mais vous êtes quand même optimiste pour la gauche à Toulouse.
Écoutez,
parce
du coup,
une des villes qui vote d'habitude toujours à gauche, sauf pour les municipales.
Sauf pour les municipales, c'est ça. Et c'est vrai qu'il y a aussi une vieille tradition qui est de plus en plus forte aujourd'hui, d'une gauche radicale. Donc nier ça, c'est une grosse, grosse bêtise. Bon, maintenant, la dynamique du deuxième tour ne va pas être la même, honnêtement.
Merci beaucoup, en tout cas, Myriam Martin, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous étiez tête de liste LCR à Toulouse. Merci beaucoup et puis donc bon courage pour les derniers jours de la campagne malgré tout.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Au revoir.
Merci.
Au revoir.
Caroline Després, on revient un petit peu à Paris avec vous pour les quelques minutes, les quelques instants qui nous restent. Moi, je voudrais que vous nous disiez pourquoi la droite, on vient de le voir dans toutes ces villes, à Toulouse, à Marseille, à Lyon, pourquoi la droite a autant de mal? Pourquoi elle n'est pas plus forte?
Alors
que finalement, nationalement, elle a plutôt bien résisté, quoi.
Oui, mais faut dire qu'on avait quand même gagné beaucoup de villes en 2001, donc il est normal qu'il y ait une alternance aussi qui se crée. Et donc c'était quasiment mathématique qu'il y ait des villes que l'on perde, parce qu'on ne peut pas tout conserver. Il y a peut-être des villes qui n'ont pas forcément très très bien gérées.
Mais généralement, vous perdez les plus grandes. Comment ça s'explique?
Bah, peut-être que les populations qui habitent dans les grandes villes...
C'est sociologique.
Ouais, c'est peut-être, je pense que c'est ça, je ne vois pas d'autre solution.
Est-ce que vous pensez qu'il y a eu un impact de la forme d'impopularité de Nicolas Sarkozy en ce moment?
J'espère pas, c'était pas l'enjeu. On parlait de questions locales. De toute façon, Nicolas Sarkozy a dit qu'il ne changerait pas sa ligne de réforme. Il est élu pour 5 ans. Si à chaque élection locale, européenne, régionale, il doit changer sa ligne, on arrivera en 2012 et il n'aura rien fait. Il n'y a que 2011 où il n'y a pas d'élection, donc il faut qu'il tienne.
Pour vous, ça n'a pas été un vote sanction pour la droite?
Ben non, pas du tout.
Pourtant, il y a un sondage, là, CSA Le Parisien, qui disait que 25% des Français, donc un Français sur 4, avait en quelque sorte un vote sanction contre Nicolas Sarkozy. C'est quand même beaucoup, non?
C'est beaucoup trop, puisque ce n'était pas la question qui leur était posée et que de toute façon, ça ne changera rien. On parle éventuellement d'un... S'il y a remaniement, il y a, ce serait un petit remaniement avec éventuellement des ministres qui vont partir si Estrosi gagne à Nice. Il a dit qu'il partirait du gouvernement, donc...
On va voir ça, et Patrick Devedjian ce matin au micro d'RTL l'a encouragé à le faire en tout cas.
Voilà.
Merci beaucoup Caroline Després d'avoir été avec nous.
Merci pour votre invitation.
C'était un bonheur, c'était un peu sportif ce soir avec et merci beaucoup et bravo
le
à Caroline.
Le standard a explosé. Le standard
qui s'est amusé, qui a eu quelques suées au standard. Voilà, c'était Politique Addict la 3e spéciale municipale. N'oubliez pas d'aller voter pour le second tour dimanche et nous on se retrouve lundi pour la numéro 4 déjà.
Bonsoir. Au revoir.